France Inter.
Allez, sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. S'abstenir, c'est fuir. Voter contre, c'est tourner le dos à l'histoire de la France. Gabriel Attal choisit ses mots pour pousser à la clarification à l'Assemblée. Le débat avant le vote, symbolique sur le soutien à l'Ukraine. Les oppositions dénoncent une instrumentalisation. Sur le terrain, de nouvelles tensions à la frontière russe. Aujourd'hui, incursion pro-ukrainienne, attaque de drones. Nous serons à Moscou. L'actualité, c'est encore ce bateau rempli de vivres qui fait route vers Gaza. La SNCF en France ouvre sa billetterie pour l'été avec 400 000 billets de plus. Et puis le film qui a fait l'événement en Italie, Il reste encore demain, c'est son titre, un film féministe carton au box-office là-bas. Il sort en France demain, juste après ce journal. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, répond à vos questions. Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
France Inter.
L'enjeu n'est pas le vote ce soir à l'Assemblée nationale sur le soutien à l'Ukraine, mais bien les débats, les positions exprimées par les groupes politiques. Nous sommes à un moment de bascule du conflit, dit le Premier ministre, à quelques mois d'une élection aussi européenne. L'exécutif compte sur un exercice de clarification. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale et les échanges sont comme attendu assez vifs.
À commencer par la harangue du Premier ministre qui réclame un sursaut et accuse les oppositions d'esprit de défaite tout en appuyant.
Dans une situation aussi complexe, il n'y a pas de place pour l'instrumentalisation. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine et nous n'excluons par principe aucune option. Nous ne nous fixons pas de limites face à une Russie qui, elle, n'en fixe aucune.
Le président du groupe socialiste qui votera pour l'accord demande une clarification. Boris Vallée.
Je crois nécessaire, monsieur le Premier ministre, que vous ayez aujourd'hui devant la représentation nationale la clarté de dire que cet accord ne prévoit en aucune manière l'envoi de troupes combattantes.
Les communistes comme les insoumis voteront contre. Le député LFI Arnaud Le Gall dénonce un vote simulacre.
Oui ou non, acceptons-nous que la France, puissance nucléaire, se place en situation de guerre face à la Russie, puissance nucléaire ? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui.
Marine Le Pen s'adresse directement au président de la République.
C'est une crise internationale majeure pour la mettre au service d'un agenda électoraliste de court terme. Ce genre de pratique porte en français un nom, la basse politique politicienne.
Le RN s'abstiendra, la droite LR votera comme la majorité présidentielle le soutien à la diplomatie du chef de l'État.
Laurence Perron avec Raymond Albouy en direct de l'Assemblée nationale. Si l'Ukraine perd, nous perdrons aussi, a encore dit le Premier ministre Gabriel Attal. Alors que le président ukrainien, dans une interview au Monde, se révèle plus optimiste que ces dernières semaines. L'avancée russe est stoppée, la situation bien meilleure, dit-il. Et ce qui a marqué la journée d'aujourd'hui sur le terrain, ce sont ces nouvelles incursions en territoire russe. Des combattants russes pro-ukrainiens, c'était déjà arrivé, dans la région de Koursk cette fois, assaut que le Kremlin affirme avoir repoussé. Sylvain Tronchet est à Moscou.
L'unité combattante qui affirme avoir pris le contrôle du village russe de Tetkino est la même que celle qui avait déjà effectué une incursion en territoire russe en mai dernier dans la région de Belgorod. Cette fois-ci, c'est dans le secteur de Koursk que ces soldats semblent s'être introduits. Ils ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo où l'on voit un blindé russe visé et endommagé. D'autres vidéos publiées par des habitants témoignent d'échanges de tirs dans le secteur, mais difficile de savoir ce qui s'y est produit précisément. Les autorités russes, elles, démentent toute incursion et affirment avoir repoussé l'ennemi. Cette attaque arrive néanmoins dans un contexte tendu. L'Ukraine semble avoir lancé des dizaines de drones sur le territoire russe ces dernières 24 heures. À Belgorod, l'un s'est écrasé sur la mairie, l'autre sur un centre commercial, sans faire de blessés apparemment. La nuit dernière, c'est une raffinerie située à plus de 400 km à l'est de Moscou qui a été touchée. D'après l'agence Reuters, les dégâts seraient importants. La raffinerie privée de la moitié de sa capacité de production. Dans la région de Koursk, les autorités ont décidé de fermer les écoles. Les cours se dérouleront à distance. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
La Russie qui se prépare à voter pour la présidentielle en fin de semaine et qui continue de mener une vaste campagne de répression. Une dizaine d'artistes ont été perquisitionnés aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, dans une affaire en lien avec un ancien du groupe contestataire Pussy Riot, qui a quitté le pays et dit aujourd'hui combattre aux côtés des forces de Kiev.
200 tonnes de riz, de farine, de conserves font route vers Gaza en bateau.
Une goutte d'eau dans l'océan face à l'ampleur du désastre, du désespoir de la population qui meurt de faim. Mais c'est la première fois depuis le début du blocus israélien de la bande de Gaza en 2007. Le navire espagnol est parti de Chypre ce matin. Combien de temps va-t-il mettre à arriver? Dans quelles conditions pourra-t-il accoster? Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Hélène, bonsoir
Vous
à tous.
Vous êtes notre correspondant en direct de Jérusalem. Il reste encore beaucoup de questions ce soir.
Il y a des questions d'abord sur la traversée. L'Open Arms, c'est le nom du bateau, tracte une barge avec, vous l'avez dit, 200 tonnes de nourriture. Il navigue donc à très faible allure. Il y a un peu moins de 400 km entre Chypre et Gaza. En temps normal, la traversée devrait durer une dizaine d'heures. Pour l'Open Arms, ça devrait être au moins trois fois plus long, car les contraintes logistiques et sécuritaires sont importantes. Laura Lanouza est la porte-parole de l'ONG Proactiva qui affrète le bateau.
Le bateau va arriver dans un ou deux jours. On ne peut pas vraiment prévoir et donner plus de détails. Il ne faut pas oublier qu'Israël a approuvé ce corridor humanitaire depuis Chypre en décembre 2023. Il y a encore trois semaines, emprunter ce corridor semblait pratiquement impossible. Il y avait une chance sur mille pour qu'on y arrive. On a travaillé très dur ces dernières semaines et finalement, on a réussi. L'Open Arms a pu embarquer 200 tonnes de nourriture avec notre partenaire World Central Kitchen.
200 tonnes d'aide alimentaire, l'équivalent d'une dizaine de camions, de quoi fournir 500 000 repas, un repas par personne aux habitants restés au nord de Gaza. World Central Kitchen est responsable de l'acheminement de la nourriture à terre. L'ONG américaine dit faire confiance à des partenaires locaux sans plus de détails, alors qu'il n'y a plus d'autorité sur place et que le spectre d'une nouvelle bousculade mortelle réprimée dans le sang par des soldats israéliens plane sur l'opération.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem, alors que le 4 le principal médiateur dans le conflit redit qu'ils ne sont pas prêts d'un accord sur une trêve, même si les négociations se poursuivent. La France croit à une possible transition politique à Haïti après la démission du Premier ministre, poussé à quitter le pouvoir par les gangs. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle désormais tous les acteurs politiques haïtiens à des négociations sérieuses. Et le Kenya annonce ce soir suspendre sa mission de police dans le pays. Alors qu'en France, la Cour des comptes réclame au gouvernement de faire plus sur l'adaptation face au changement climatique. C'est l'Allemagne qui sort les très gros moyens, un gigantesque plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour verdir son industrie lourde. Sébastien Baer, vous êtes notre correspondant en direct de Berlin. Est-ce que l'Allemagne annonce, c'est un mécanisme assez unique en Europe?
Oui, Hélène, effectivement, avec des moyens conséquents. 4 milliards d'euros pour la première partie du programme avant une deuxième enveloppe de 19 milliards prévue à l'automne. Pour obtenir une subvention, les entreprises vont devoir soumettre à l'État leur projet de transformation. Sont concernées les industries les plus énergivores, celles par exemple du verre, du métal, du papier ou de l'acier. À elle seule, l'industrie est responsable en Allemagne de 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'État sélectionnera ensuite les projets qui offrent le meilleur rapport investissement-bénéfice pour l'environnement. Les contrats seront conclu pour une durée de 15 ans. Ensuite, deux possibilités. Si l'investissement dans de nouvelles installations vertes et le passage à une production neutre pour le climat augmente les coûts de l'entreprise, l'État compensera le manque à gagner. À l'inverse, si le mécanisme est rentable et permet à l'entreprise de faire des économies, alors elle devra rembourser une partie des aides. Voilà donc de quoi inciter les patrons à investir sans risque dans des équipements souvent coûteux. Grâce à ce coup de pouce, l'État espère économiser environ 20 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est l'équivalent de 150 milliards de kilomètres parcourus en voiture thermique, soit l'empreinte carbone annuelle de 12 millions d'automobilistes allemands.
Sébastien Baer en direct de Berlin, tandis qu'à Strasbourg, les députés européens ouvrent la brèche à la circulation de méga-camions sur les routes des États qui les acceptent. 60 tonnes, 25 mètres de long, malgré l'opposition des écologistes et de nombreux eurodéputés français. Pour l'instant, la France s'oppose à la présence de ces mastodontes sur nos routes.
Encore un coup de filet dans les milieux de l'ultra-droite.
15 personnes ont été arrêtées et ce sont d'anciens militants du groupe Génération Identitaire, dissous il y a 3 ans par le ministère de l'Intérieur, Pierre de Cossette.
C'est une reconstitution de ligue dissoute au sens propre qui est dans le viseur de la justice. À l'automne 2021, quelques mois seulement après avoir dissous Génération Identitaire, connue pour ses opérations très médiatiques anti-islam et anti-migrants, Gérald Darmanin signale au parquet de Paris que d'anciens militants ont fondé une nouvelle structure baptisée Association de soutien aux lanceurs d'alerte. Enquête ouverte et depuis ce matin, les gendarmes de la section de recherche de Paris sont allés interpeller en Ile-de-France mais aussi en région lyonnaise et en Savoie 15 personnes 13 hommes, 2 femmes, âgés de 22 à 38 ans. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont aussi découvert que certains des suspects s'étaient investis dans un autre collectif connu sous le nom d'Argos. D'ailleurs, à la fin de l'été dernier, une dizaine de membres de ce groupe avaient été arrêtés à Cherbourg après un rassemblement non déclaré, fumigène et banderole appelant à l'autodéfense. Un collectif qui se présente comme défenseur de la civilisation française et européenne. Ces suspects avaient été interpellés notamment pour incitation à la haine.
Que va décider le ministère de la Justice? C'est lui qui a le dernier mot sur le cas du procureur de Limoges, Baptiste Porcher, visé par une enquête disciplinaire pour un comportement décrit comme déplacé par plusieurs femmes au sein du tribunal. Le Conseil supérieur de la magistrature réclame aujourd'hui, et c'est rare, qu'il quitte ses fonctions. Un restaurant à l'intérieur d'une prison, et ce sont les détenus qui invitent pour aider à la réinsertion. Ça se passe au Baumettes, à Marseille. Bilan au bout d'un an, c'est le reportage de Mathilde Vinceneux.
La porte pour le restaurant, je me dirige vers toi avec 12 clients.
C'est guidé par une surveillante que les clients entrent au Baumettes. Tous doivent avoir un casier vierge, déposer leur téléphone et passer au détecteur à rayon X.
C'est comme aller à l'aéroport finalement.
Le restaurant est dans un vieux bâtiment de pierre. Ici, les fenêtres n'ont pas de barreaux, les détenus sont en chemise.
On prend des ravioles de 5 millions.
Au total, ils sont 7 détenus à s'activer en salle ou en cuisine sous la direction de la chef Sandrine Saulier.
Quand ils sont ici, c'est comme un restaurant à l'extérieur ou comme un travail à l'extérieur. Ils doivent parler correctement, ils doivent se tenir correctement. Et pour la plupart, ça fait longtemps qu'ils sont enfermés. Du coup, ils n'ont pas forcément toujours tous les codes.
Déjà, nous, ça nous fait bizarre, en tant que détenus, voilà, de voir des fenêtres sans barreaux, etc.
Leïla, 26 ans.
Oui, ça nous rapproche de la réalité, de la sortie, de la vie normale.
Au bar, Faté, 19 ans, fait les cocktails sans alcool. C'est interdit en prison.
Première fois que je travaille de ma vie.
Alors
le contact avec les gens, j'aime bien avec les clients, leur sourire, tout ça.
La vocation du restaurant, c'est d'être un tremplin vers l'emploi et puis pour retrouver une place dans la société.
Carole Guilherme, responsable des Baumets pour l'association Festin.
On a accompagné 41 personnes détenues, beaucoup qui ont retrouvé un emploi, une formation à la sortie de détention. Ici, on a envie de dire qu'on peut faire de très belles choses en partant d'un peu loin.
Et les clients sont unanimes.
On va revenir.
Depuis l'ouverture, plus de 3500 convives ont déjeuné au Baumets.
Reportage Mathilde Vinceneux. Le processus est encore long, mais un accord d'écriture constitutionnelle a donc été trouvé la nuit dernière pour une autonomie de la Corse. Pour légiférer ou réglementer notamment, le cadre sera précisé par une loi organique. L'accord doit désormais être entériné par l'Assemblée Corse, l'Assemblée Nationale, le Sénat et les 3/5 du Congrès, puisqu'il s'agit d'une modification de la Constitution. Et dans le Gard, les secours cherchent toujours l'adolescente de 13 ans portée disparue dans les crues du week-end. Le corps de sa petite sœur, en revanche, a, selon toute vraisemblance, été retrouvé ce matin à proximité de Dionce. Cela porte à 6 le nombre de victimes des intempéries dans le sud-ouest.
À 19h13, Hélène, il est temps de mettre votre réveil.
Si vous avez l'intention de prendre le train cet été pour les vacances ou les Jeux Olympiques, la SNCF met en vente les billets demain, 6h. La compagnie ferroviaire communique de plus en plus sur ces dates de mise en vente. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Celle-ci est particulièrement attendue. Est-ce qu'il y aura plus de places en vue des JO?
Alors oui, la SNCF promet sur le papier 400 000 billets TGV supplémentaires par rapport à l'été dernier. 300 000 sur l'axe Atlantique, 100 000 places de plus sur le Sud-Est, avec un rythme de circulation optimisé. Tous les trains dont dispose la SNCF seront en circulation, sans exception. Pas un qui restera au garage, avec 800 voyages prévus au calendrier par jour, des doubles rames à certains horaires. Au moment des Jeux, spécifiquement, l'effort sera considérable, assure l'entreprise. Et les moyens décuplés, pour preuve, les 4 millions de billets qui seront mis en vente vers et au départ de Paris pour les seules quinzaines olympiques et paralympiques. Le top départ, c'est donc demain matin, vous l'avez dit. Pour vous positionner, le serveur risque de chauffer un petit peu dès 6h. Premier levé, premier servi, même si on veut rassurer, côté SNCF, il restera des places les jours suivants aussi.
Merci beaucoup Maxime Debs. Et puisqu'on parle des Jeux Olympiques, savez-vous qu'ils auront droit à une tapisserie officielle colossale de près de 9 mètres de long, signée de la dessinatrice Marjane Satrapi, la réalisatrice de Persepolis. 3 ans pour la faire. Elle sera exposée à l'hôtel de la Marine cet été et vous pouvez aller voir à quoi elle ressemble sur le site de France Inter. Ce n'est pas nouveau. Autour des terrains de football, des joueurs trichent sur leur âge pour paraître plus jeunes et espérer s'offrir une carrière dans les clubs les plus prestigieux. Nouvelle affaire au Cameroun où cela concerne une 60aine de joueurs du championnat national. Ils viennent d'être exclus par la fédération camerounaise parce que tous auraient menti menti sur leur âge, Nicolas Perronnet.
C'est un document PDF de 46 pages, publié hier par la FECAFOOT, la fédération camerounaise. La liste des joueurs autorisés à disputer les play-offs du championnat. 62 noms sont surlignés en rouge, avec dans la colonne observation la mention double identité. 62 joueurs suspectés d'avoir menti sur leur âge, selon la fédération, qui assure vouloir s'attaquer à ce problème récurrent. La détection précoce étant souvent difficile en Afrique, faute de championnat jeune, la tentation de se rajeunir une fois arrivé en première division est grande pour tenter de séduire les clubs européens. Parmi ces 62 joueurs suspendus, un nom ressort, celui de l'international Wilfried Nathan Douala, présenté officiellement comme le plus jeune joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. 17 ans sur la feuille de match, le milieu de terrain aurait en réalité 23 ans. Si les faits sont avérés, la sélection des Lions Indomptables pourrait faire l'objet de sanctions sévères de la part de la FIFA, allant jusqu'à l'exclusion de la prochaine CAN.
À Marseille, les deux supporters lyonnais poursuivi pour avoir brandi un drapeau rappelant celui d'une division SS dans les tribunes de l'OM ont été condamnés à de la prison ferme aujourd'hui, 6 et 4 mois et à 3 ans d'interdiction de stade. Enfin, c'est demain que sort en salle en France le film italien Phénomène qui a fait exploser le box-office de l'autre côté des Alpes. 5 millions d'entrées en quelques mois, plus fort que les grosses productions hollywoodiennes. Il reste encore demain. C'est le titre de ce film, l'histoire d'émancipation d'une femme victime d'un mari ultra-violent dans l'Italie machiste d'après-guerre. Corinne Pellissier.
C'est un film en tout cas qui arrive au bon moment autour d'un sujet qui mobilise beaucoup en Italie. 1 million de personnes dans les rues en décembre pour dénoncer le féminicide d'une étudiante de 22 ans poignardée par son ancien petit ami. Et puis parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de femmes vont se reconnaître dans le personnage de Delia. Sa trajectoire de mère courage qui encaisse les coups de son mari sans jamais se plaindre.
Ma forte.
Question d'époque et d'habitude dans un pays où le machisme et les traditions règnent en maître. Nous sommes ici en 1946, à la sortie de la guerre, juste avant le droit de vote accordé aux femmes. Et c'est dans ce contexte que Paola Cortellesi, pour la première fois devant et derrière la caméra, a choisi de nous raconter une histoire universelle d'émancipation autour d'un personnage fort, attachant, intemporel dans ses questionnements, filmé dans un joli noir et blanc qui rappellera, comme son humour féroce, les maîtres de cinéma qui ont inspiré la cinéaste de Roberto Rossellini à Vittorio De Sica. Le résultat très pop, rempli de chansons, de violences ultra chorégraphiées, ne fera sans doute pas rire tout le monde, mais c'est un film qui va rester parce qu'il nous parle d'aujourd'hui et s'empare sans pathos d'un sujet difficile à traiter.
Il reste encore demain de Paola Cortellesi au cinéma, donc cette semaine en France.
Et merci Hélène Philippe.